BFM. BFM. Il est minuit. Beurre FM, la rediff. Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS, pour votre santé naturelle ce matin, masterclass. Ouvrez toutes et tous vos oreilles. Je reçois François Couplan. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes ethnobotaniste, spécialiste des utilisations traditionnelles des plantes sauvages comestibles que vous avez étudiées sur les 5 continents et dont vous êtes le pionnier en Europe, autant dire que vous êtes la référence en matière de plantes sauvages comestibles. On vous doit l'encyclopédie des plantes sauvages de l'Europe, un ouvrage de référence aujourd'hui. Et vous êtes là pour nous parler de l'art de la cueillette, des bienfaits nutritionnels des plantes sauvages aux éditions Les Liens qui Libèrent. Votre grand-père, qui était médecin à Vichy, était un passionné de jardinage auquel il consacrait tout son temps libre et il bichonnait sur un petit terrain clos en pleine ville ses fleurs et ses légumes rares et il vous a légué un livre, l'édition de 1891 du catalogue des plantes potagères de Villemorin-Andrieux et racontez-vous, vous passez des heures à le feuilleter et c'est là que vous avez lu pour la première fois la description du pourpier. Pourpier qui aujourd'hui est une plante que vous aimez beaucoup mais qui n'est pas facile d'utilisation.
Oui, alors pourpier, déjà, c'est une plante qu'on rencontre très fréquemment. Je pense que la plupart des gens l'ont vu, ne l'ont peut-être pas forcément reconnu. C'est une plante qui rampe, qui pousse toute seule, et c'est assez ambigu parce que elle pousse toute seule et pourtant on la cultive également. Voilà. Plante qui...
Alors, est-ce que celle qui est cultivée a les mêmes propriétés que celle qui est sauvage?
Alors, les mêmes propriétés, on peut dire oui, ouais. Mais pas exactement le même aspect, pas forcément exactement le même goût non plus. Et pas très facile d'utilisation pour nous, oui, effectivement, parce qu'elle a un côté que beaucoup de gens n'aiment pas. Ici, c'est le côté gluant. C'est gluant, c'est mucilagineux. Alors c'est bien, ça lui donne des propriétés laxatives, par exemple. Donc on se fait du bien en même temps qu'on se nourrit, ce qui est une excellente chose. Mais pour l'utiliser, c'est plus délicat. Alors moi, j'aime bien faire des omelettes, par exemple, ou des quiches de pourpier. Et ça, ça passe bien, c'est agréable. Et puis voilà, c'est plutôt une plante d'été, hein, mais qu'on rencontre en grande quantité.
Et quelles sont ses vertus à cette plante?
Alors, justement, elle est d'abord, c'est un bon légume, hein, donc ça a déjà des vertus nutritionnelles intéressantes. Hein, ça, c'est important, c'est la base de ce que je raconte dans mon bouquin. Hein, on manque généralement de toutes sortes de nutriments, en particulier de micronutriments, et les plantes sauvages peuvent apporter à l'organisme toutes sortes de choses que l'alimentation civilisée, cultivée, habituelle, ne leur apporte pas. Dans le cas du pourpier, ce qui est intéressant, moi ce que j'aime bien, je vous dis, c'est le côté, justement ce côté très doux, ce côté très, ça passe tout seul, voilà, ça permet de digérer son repas d'une façon sereine, et parfois c'est pas mal.
Attention aux fausses nouvelles hein, ancrées dans les croyances populaires pour ce qui concerne les plantes, notamment les plantes sauvages. Hein. Vous avez toujours cru ce qu'il y avait dans les livres jusqu'à ce que vous constatiez par vous-même que tout n'était pas vrai, d'ailleurs, dans les livres.
Alors, d'abord, il faut dire une chose, c'est que quand moi j'explorais le monde végétal et le monde végétal alimentaire en particulier, les livres, il n'y en avait pas beaucoup, en fait. Donc... j'ai eu des surprises parfois, comme je lisais quand j'étais aux États-Unis, j'ai passé beaucoup de temps à vivre dans les bois aux États-Unis, et j'en sortais pour me documenter un petit peu, pour savoir ce que j'allais pouvoir trouver justement et comment me nourrir. Et je me souviens ils appellent ça sugar pine aux États-Unis, donc le pain
à sucre.
Ouais, le pain à sucre. Donc on se dit, attends, c'est chouette. Et puis ils disaient, ouais, les Indiens utilisaient la sève de cet arbre pour édulcorer leurs plats. Ok. Bon, quand j'ai essayé ça, alors c'est un petit goût légèrement sucré, mais c'est pas comme du miel. Hein. Je veux dire, ça restait résineux. Jamais réussi à en faire quelque chose que j'ai trouvé terriblement juste. Donc ouais, bien sûr, les livres. Bon, les livres, c'est souvent des compilations aussi. Hein. Il y a finalement. Enfin, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais souvent on reprend des histoires qui ont été racontées plus loin, alors que c'est bien, hein, c'est bien de savoir ça, mais il faut expérimenter soi-même directement.
Ou alors rencontrer des gens qui ont expérimenté ou qui ont cette culture.
Ouais, bah il y en a de plus en plus, heureusement. Je suis peut-être pas totalement étranger au fait que ce soit que la bonne nouvelle se soit propagée, si je puis dire. Mais enfin, à mon époque, de toute façon, d'abord dans la vie, il faut avoir de la chance. Hein. Ça c'est une chose. Et moi, j'ai toujours eu de la chance. J'ai toujours effectivement rencontré des personnes qui connaissaient des choses et qui les ont partagées avec moi. Des personnes dans différentes cultures, dans différents coins du monde. Mais voilà, il faut y aller. Il faut faire l'effort de rechercher. Maintenant, autour de nous, c'est plus facile.
Vous avez 16 ans quand un vieil instituteur féru de botanique vous initie au mystère des plantes sauvages. Qu'est-ce qui a tapé dans votre oreille à ce moment-là?
Bah, les sonnets classiques qu'il me racontait, c'était un vieux monsieur qui avait été instituteur, effectivement, qui était membre de la Société Botanique de France, et qui était passionné de poésie et de botanique, donc. Et il mettait en vers les découvertes qu'il faisait, c'est les observations qu'il faisait sur les plantes sauvages. Et comme il avait été blessé pendant la guerre, la Première Guerre mondiale, il avait du mal à se déplacer, donc il m'envoyait, il me donnait des pistes. C'était vraiment une enquête. À chaque fois, il me disait oui, vous allez, il me vous voyait. Moi, j'avais 16 ans, il en avait 80, il me vous voyait. C'était un peu l'ancienne école, n'est-ce pas? Et il m'envoyait à la découverte de telle ou telle plante, la spéruleodorante ou la drosera, par exemple, ou les fènes des hêtres ou les choses comme ça. Et quand je revenais, il sortait son cahier et il me lisait le poème qu'il avait écrit sur la plante en question. Même maintenant, je trouve ça encore émouvant, quoi. Une chose que je regrette, c'est de pas avoir récupéré tous ces
documentations.
Bah oui, mais j'étais jeune et je ne savais pas
la valeur des choses. Ouais. À quel moment l'idée de vous nourrir des végétaux que procure la nature est-elle devenue votre façon de vivre?
Alors, j'ai eu des bases déjà quand j'étais petit avec ma mère, avec qui on cueillait des plantes relativement simples, hein, comme ça se faisait peut-être encore pas mal à l'époque, des myrtilles, des framboises, des champignons, des pissenlits et des choses comme ça. Donc c'était une base et ça c'était important parce que j'ai toujours considéré que c'était complètement normal de me nourrir de plantes sauvages en complément de ce que je mangeais habituellement, les bons plats de ma maman. Et puis quand j'ai eu 12 ans, je me suis dit mais la société dans laquelle je vis, il y a un truc qui va pas. Les gens autour de moi, ils font pas ce qu'ils disent. Ils disent aimez-vous les uns les autres, ils disent soyez sympas, ils disent respectez, machin et tout. Et ils le font pas. Attendez, j'étais complètement naïf. Moi, j'ai été pendant longtemps assez naïf, hein, quand même, je veux dire. Et là, je me dis, mais pourquoi ils le font pas? Comment ça se fait? Donc, ça marchait pas. Voilà. Et puis je continue à vivre là-dedans. Et puis il fallait que je fasse quelque chose de ma vie, hein. Comme mon père, qui venait d'une famille de pauvres paysans bretons, avait transcendé, si je puis dire, ses origines en s'engageant dans l'armée, en devenant un officier de la glorieuse armée française. Moi, je devais faire polytechnique pour devenir un des fleurons de notre bonne société. Sauf que en 1968, j'ai eu 18 ans, et qu'à 18 ans. Surtout en 68 en l'occurrence, j'ai eu d'autres occasions de me défouler que d'aller suivre mes cours de maths et de faire l'imbécile au tableau noir avec une craie pour essayer de montrer ce que je ne savais pas. Donc on m'a viré, donc un certain nombre de portes se sont fermées devant moi. Et quand j'ai eu 20 ans, je me suis dit, non, mais attends, ça va, qu'est-ce que je fais dans cette société, dans un chien? Je veux dire, c'est pas fait pour moi, ça m'intéresse pas. Donc, ce qui me paraît logique, à ce moment-là, c'est, si on trouve que la société ne nous convient pas, on s'en va. À l'époque, j'ai décidé de partir au fond des bois. Partir vivre au fond des bois.
Mais aux États-Unis, à une époque où on voyageait pas aussi facilement qu'aujourd'hui, quand même.
Alors, j'ai commencé à le faire parce que j'ai rencontré un tonton à moi. Il y a une chose aussi qu'il faut dire, parce que ça m'a beaucoup changé la vie, ça. Ce tonton, il était végétarien. Et dans ma famille, on était des carnivores, parce que vu qu'on est d'une famille pauvre, eh bien, manger de la viande, ça voulait dire qu'on était des gens bien, qu'on était des gens riches. Et moi, j'adorais la viande, et j'aime le gras, surtout. Hein. Mais voilà. Et donc, j'en mangeais trois fois par jour, donc je suis tombé malade, quoi. 20 ans, j'étais malade. Les médecins, ils comprenaient rien. Dans ma famille, ils étaient médecins, ils comprenaient rien. Bon, j'ai rencontré un tonton à moi qui était végétarien, justement, qui avait eu le temps de philosopher un petit peu parce qu'il avait fait de la prison après la libération, parce qu'il était du mauvais côté. Et il m'a expliqué un petit peu d'autres choses que la vision qui m'était donnée du monde dans lequel je vivais par mon bon milieu bien bourgeois, quoi, finalement. Voilà. Et donc, ça m'a fait prendre conscience qu'on pouvait faire les choses, concevoir, mais vivre le monde d'une façon différente. Et vivre le monde d'une façon différente, il faut le faire. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre, survivre. Première chose qu'un organisme tente à faire. Hein. Donc, pour nous, c'est respirer, c'est boire et c'est manger. Respirer, boire, ça va, j'étais dans les Alpes de Haute-Provence, donc ça va, je trouvais. Mais me nourrir, eh ben là, le déclic, il était simple. Quand j'étais petit, je mangeais des plantes sauvages, donc je me suis dit, je me fais un cours accéléré, et comme ça, je pourrais partir vivre dans les bois. J'ai fait ça dans les Alpes de Haute-Provence, ensuite en Corse, et puis après, je suis parti aux États-Unis. Et là, c'était la voie royale, quoi.
D'accord, vous êtes resté combien d'années dans les bois aux États-Unis?
Alors, je suis resté 10 ans aux États-Unis, mais j'étais pas tout le temps dans les bois non plus. C'était aussi l'époque post-hippie, c'était peace and love, comment je peux dire, c'était des festivals où tout le monde se retrouvait tout nu dans la nature, etc. C'était sympathique, hein. C'était très sympathique.
D'ailleurs, vous preniez pas que des plantes pour vous nourrir.
Alors ça, c'est quand j'étais à Paris, je prenais toutes sortes de plantes qui étaient faites pour nourrir un petit peu mon esprit, on va
d'accord,
dire.
Ouais. Hein, mais dans les bois aux États-Unis, c'était pour vous nourrir.
Ah oui. D'ailleurs, dans ces festivals, c'était un no drugs, no dogs, no alcohol, no smoke. C'était vachement clean. C'était le trip, je sais pas quoi, le trip spirituel au fond des bois, quoi. C'était pas mal. On se berçait de beaucoup d'illusions, évidemment. On était jeune, n'est-ce pas? On peut être jeune à tout âge, mais là, on l'était vraiment. Et la chose qui était vraiment super, en dehors du fait qu'il y avait une ambiance géniale, quand même, c'est vachement agréable, quoi. On se prend dans les bras et tout. Bon, il y avait de la sincérité dedans, quand même. Hein. C'était pas du pipeau. Mais pour moi, ce qui m'a fait grandir, c'est que ces gens se sont rendus compte que je connaissaient les choses sur les plantes, alors que moi, j'en avais aucune notion, finalement, et m'ont demandé...
Vous n'aviez pas conscience de l'importance de votre savoir?
Non.
Non.
Non, et j'en ai toujours pas conscience, je crois, d'ailleurs. Franchement, parce que c'est tellement immense. C'est tellement immense, et on ne peut en connaître qu'une telle fraction. Simplement, je le mettais dans ma vie de tous les jours, je le vivais, ouais, c'est clair. Et ça branchait bien les gens, quoi. Et c'est eux qui m'ont demandé de partager avec eux. Et puis, businessmen comme sont les Américains, il y en a qui m'ont dit, mais attends, tu pourrais t'en faire ton job. Donc j'en ai fait mon job aux États-Unis, puis je suis retourné en France pour suivre mon amie américaine qui voulait savoir comment vivaient les Français. Ah ouais, il y a des vrais gens, il y a des vraies voitures, il y a des vrais arbres, il y a des vrais... Oh, attends, bah ouais, ils sont un peu déconnectés quand même, les Américains. Et donc...
Oui, c'est quoi, François Couplan? On va continuer à dérouler votre histoire, mais là il faut faire une page de publicité. C'est la dure réalité, François Couplan. Et notre invité ce matin, je rappelle que vous publiez donc L'art de la cueillette, les bienfaits nutritionnels des plantes sauvages aux éditions Les Liens qui Libèrent.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, la rediff. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Masterclass avec François Couplan, qui est notre invité aujourd'hui. Vous êtes ethnobotaniste, spécialiste des utilisations traditionnelles des plantes sauvages comestibles que vous avez étudiées aujourd'hui sur les 5 continents et depuis plus de 60 ans aujourd'hui. Et vous publiez votre dernier livre qui s'appelle L'art de la cueillette, les bienfaits nutritionnels des plantes sauvages aux éditions Les Liens qui Libèrent. Toutes ces plantes dont vous parlez, alors moi je veux dire, j'en connais aucune, hein, la plupart, je connais les basiques, mais beaucoup de noms sont étrangers à ceux qui nous écoutent. D'ailleurs, quand vous êtes arrivé en bas de l'immeuble, vous avez dit, vous avez...
Ah, j'ai trouvé un magnifique lamier en plexicol. Là, je suis en train d'explorer Paris en ce moment, parce que c'est le printemps, ça jaillit de tous côtés. Et je n'avais pas rencontré encore le lamier en plexicol ici, juste en bas. Il y en a plusieurs pieds. C'est très joli. C'est une plante qui est proche de la menthe, mais qui est pas odorante comme la menthe. Il fait des petites fleurs roses dressées comme ça. C'est mignon comme tout.
D'accord. Et alors, on l'utilise pourquoi ?
Oh, ça se mange, ça se mange. Toutes les plantes de la famille de la menthe, c'est pas toxique. Ça peut se consommer. C'est pas la plante qui fait le plus frémir mes papilles, mais c'est sympathique. De toute façon, j'aime bien la diversité.
Connaissez-vous le mouron des oiseaux ?
Je l'appelle stellaire, plutôt pour qu'il n'y ait pas de confusion avec le mouron rouge.
D'accord, mais pourquoi est-ce qu'elle gagne à être connue ? Ouais.
Parce que c'est une des meilleures plantes à salade qui soit. Et j'ai beaucoup de meilleures plantes à salade que je préfère. Hein. Mais ça, c'en est une. Ah, ça pousse, c'est une mauvaise herbe, mais vous avez entendu que j'ai mis des guillemets, bien sûr, qui pousse dans tous les jardins. Il y en a partout. Et alors ça, à Paris, par contre, mais il y en a au pied de tous les murs et au bord de tous les trottoirs. Hein. C'est fréquent. On va pas forcément le ramasser.
Oui,
non, ça donne pas très envie.
Non.
Mais là où on peut ramasser des plantes, comme par exemple dans un jardin ou dans un sous-bois, on l'accueille, on fait des salades, puis c'est juste bon, c'est tellement bon que ça se mange comme ça, quoi. On en brouterait.
Et c'est gratos, en plus.
Ah, ben c'est gratos, oui. Bah c'est quand même
non, non, mais il faut quand même le dire.
Il faut le dire.
C'est gratuit.
Mais c'est bien pour ça que quand je suis parti vivre dans les bois, moi, j'ai pas dépensé grand-chose, hein, je peux vous dire. Mais,
oh, oui.
Mais même, hein, pendant le Covid, on s'est confiné à la campagne, et avec ma femme, tous les jours, on descendait dans notre jardin ramasser des mauvaises herbes, justement, les plantes qui poussent toutes seules. On ajoutait un oignon, des carottes, un morceau de fromage et tout. Et puis, on a fait plein de trucs, puis d'autres choses quand même. On a créé plein de recettes, on avait plein de choses, mais on s'est nourri pendant 2 mois et demi pour 5 € par jour à deux, quoi. Faut le dire quand même. 5 € par jour à deux.
Et sans carence, hein, c'est ça aussi qu'il faut expliquer. Sans carence alimentaire.
Alors, ça c'est pour moi la base. J'ai 74 ans, ce qui commence à devenir relativement vénérable. Et je me sens bien. Et donc je pense que c'est lié au fait que je consomme régulièrement des plantes. Et c'est le sujet de ce dernier bouquin, L'art de la cueillette, où je présente les différents nutriments. Je les prends un par un. J'explique quels sont nos besoins et en quoi les plantes sauvages peuvent y répondre. Et au niveau des micronutriments, et on est en carence. Ici, on est en carence de vitamine C, de magnésium et divers autres flavonoïdes, souvent des antioxydants. Et ça, c'est gênant. C'est gênant parce que l'organisme, il a des ressources. Mais il y a un moment où c'est quand même pas mal de lui apporter ce dont il a besoin de façon régulière, cool comme ça. On apprécie mieux la vie, je trouve.
Alors, est-ce que vous pouvez nous définir l'ethnobotanique ?
Je pense assez simplement, ethnos c'est le peuple, botanos la plante, donc en gros c'est l'étude de la façon dont les peuples de différentes cultures se relient au végétal. Donc en particulier, mais pas que, la façon dont ils utilisent les plantes à toute fin possible.
Vous expliquez qu'il vous faut manger quotidiennement des feuilles d'arbres, par exemple, même en petite quantité.
D'arbres, des feuilles d'arbres ou des feuilles de plantes herbacées, hein, mais des feuilles vertes en tout cas.
D'accord.
J'ai besoin de feuilles vertes. C'est là où il y a le plus de micronutriments. Alors, je ne sais pas. Vous savez, c'est toujours un petit peu difficile de dire. C'est vraiment ce que je ressens, et je le ressens vraiment, vraiment très fort. Ouais. Est-ce que c'est purement intellectuel ? Est-ce que c'est véritablement un besoin physiologique ? Est-ce que c'est parce que mes papilles aiment ça ? Je ne sais pas. J'ai pas encore démêlé les chevaux, mais en tout cas, j'en ai besoin. Et quand j'en mange et quand je le fais régulièrement, je me porte bien.
Et alors, par exemple, aujourd'hui, quel va être votre repas?
Alors là je suis venu
à Paris là aujourd'hui.
Je suis à Paris, mais hier j'étais au parc André Citroën
dans le 15e,
ouais, ouais, à côté, ouais, de France Télévisions, ouais. Et dans le parc André Citroën, j'ai découvert un gisement, un champ, une forêt de masserons. Masserons, c'est une plante qui habituellement pousse sur le littoral plutôt, ou dans la région méditerranéenne. Et là, mais il était tellement beau, tellement magnifique. Il y a des gens qui nous écoutent là.
Oui.
Je peux pas dire que j'en ai cueilli.
Non.
Bon.
Mais ça reste entre nous.
Donc j'en ai cueilli.
Ouais.
Et ça, plus un petit peu d'ail des ours que j'ai rapporté, que j'avais apporté avec moi, parce qu'il y en avait tellement. Il y en avait tellement que j'ai pas pu tout manger. Faut y aller, comment dire, modérément aussi, hein.
Avec parcimonie et bon escient, comme on dit.
Voilà. Ouais. Pas d'abus, même des bonnes choses. Eh bien, voilà.
Vous avez fait quoi avec, alors?
Ah ben, un oignon. Revenu avec dans l'huile d'olive, ok. J'aime bien mettre quelques rondelles de carottes quand j'en ai là, j'en avais pas, mais j'aime bien mettre quelques rondelles de carottes, ça donne un petit peu de couleur, ça donne de la saveur et tout. En cultiver, c'est tout. Et puis, donc là, en l'occurrence, du masseron, de l'ail des ours à la fin, je le mets à la fin pour pas, comment dire, que la saveur s'évapore. Et puis à la fin un petit peu de fromage, j'aime bien mettre un petit peu de fromage avec ou quelques anchois ou des trucs comme ça. Pour moi alors c'est parfait quoi. Une bonne rasade d'huile d'olive quand même. Puis après je décline ça de toutes sortes de façons et les jours plus festifs, eh bien on fait d'autres choses évidemment. Là on va inviter une voisine dimanche, on va lui faire quelque chose d'un peu plus complexe, je sais pas, comme vous savez, alors le soufflé bien sûr, ou les gougères, j'aime bien les gougères farcies avec des plantes sauvages. Je hache les plantes sauvages, je fais une préparation, une purée dedans, et puis quand les gougères sont cuites, j'ouvre le fond, pouf, j'en mets un petit peu, je remets à chauffer, un petit peu de fromage par-dessus, et voilà, c'est cool.
Ça c'est pour dimanche.
C'est pour dimanche soir.
C'est un jour de fête.
Eh.
Alors, vous avez, je le disais tout à l'heure, cru longtemps ce que disaient les livres, jusqu'au jour où vous avez mangé de la brionne. Et on vous avait dit pendant des années que la brionne, c'était toxique.
Je l'ai même écrit moi-même.
Ouais. Et là, c'est un couple qui vous dit, non, nous, on se fait...
Alors... Oui et non, c'est là où c'est intéressant, parce que l'être humain, pour nous, on aime bien quand c'est oui, c'est bon, ou non, c'est toxique,
ouais,
en l'occurrence.
Surtout quand on s'initie, en fait.
Non, même d'une façon générale, et dans tous les domaines de la vie, on aime bien quand c'est simple. Notre cerveau, il fonctionne de façon discrète, manichéenne, mais on est binaire, Et bien la réalité, c'est pas ça, c'est que la brionne, oui, c'est vrai, c'est toxique. La racine de brionne, alors ça, c'est un laxatif, mais du tonnerre de Zeus. Les anciens, ils prenaient de la racine de brionne, ils creusaient un petit trou dedans, ils mettaient du sucre, ils laissaient fondre, ça faisait un sirop, ils buvaient, et après, waouh, alors le ventre lâchait, comme on dit, quoi. Vraiment efficace, quoi, efficace. Mais là, c'est pas ce que j'utilise. Ce que j'utilise, ce sont les petites pousses, et uniquement les petites pousses. Et les petites pousses, mais faut pas les manger crues, faut les blanchir. Simplement les blanchir.
D'accord.
Et après, on les mange comme des asperges, c'est vraiment trop bon.
Et là, ça vous expliquez dans votre livre, les asperges, il y en a de toutes les sortes.
Il y en a de toutes les sortes. Oui, et puis il y a des choses qu'on appelle asperges et qui ne sont pas des asperges, les jets de houblon par exemple, ou les pousses de clématite. Là, vous avez de la clématite.
C'est très bon pour dormir, le houblon.
Alors, ce qui est bon pour dormir dans le houblon, c'est les cônes de houblon. Parce que là, je parle des petites pousses, vous voyez. Et il faut bien comprendre que les choses sont simples, mais compliquées.
D'accord. Et nous, en bas, on a des
clématites. Ah oui, de la clématite, ouais. Ouais. La clématite, ouais. Ça se fume aussi, hein, la clématite. Enfin, pas de la même façon que d'autres plantes, mais on l'appelle bois fumant. Quand on était petit, vous avez jamais fait ça. Vous coupiez les tiges de clématite séchées, on l'allume à un bout, on tire, on est malade comme un chien, mais on est content parce qu'on a bravé les interdits. Ça s'appelle le bois fumant.
Alors, pendant longtemps, notre alimentation a été constituée de 96% de la vie de notre espèce par la cueillette, des plantes sauvages, et c'était la base de notre alimentation.
Ouais, et je le démontre.
Et aujourd'hui, finalement, ça représente quel pourcentage de notre alimentation?
Alors,
en Occident, on va dire.
Hein. En Occident?
Ouais.
En Occident, c'est 0,00000000. Attendez, faut pas que j'en ai oublié. 0,1%.
D'accord. Comment est-ce que ça a été banni de notre alimentation?
Ça a été progressif. Le premier gros changement, c'était l'agriculture. Il y a à peu près 12 000 ans, on se sédentarise, on voit qu'il y a des plantes autour de nous qui nous apportent des glucides. Glucides, on en a besoin, c'est bien, c'est chouette, ce sont des graminées, en fait, des céréales, hein, des légumineuses un petit peu aussi. Et puis, on se rend compte, par exemple, que c'est avec ces céréales, on peut faire de la bière, aller se promener un petit peu ailleurs. Et puis, d'un autre côté, on on voit qu'on peut stocker aussi ces grains. Donc, ça veut dire qu'on invente la richesse, qu'on invente le statut, parce que celui, c'est toujours le cas, je vois dans les villages africains, par exemple, celui qui fabrique la bière 2000, parce qu'il a plus que les autres, il peut se permettre de gaspiller pour faire plaisir à l'ensemble de la communauté, il gagne en statut, il va devenir le chef, etc. Donc, on développe rapidement les hiérarchies, et quand il y a donc hiérarchie, statut, on va y revenir, et en même temps, on développe un type d'alimentation différent qui favorise la natalité, mais il faut suivre parce qu'il faut que la production arrive à suivre le développement de la population, ce qui marche pas très bien. Voilà. Mais donc, on rentre dans une sorte de cercle vicieux dont il est difficile de sortir. Et pour ça, bah, il faut beaucoup de production de base, beaucoup de production de céréales, et le reste, on le laisse un petit peu de côté. Voilà. Même s'il y a beaucoup de cultures où les deux coexistent, et ça peut très bien marcher, hein. Ça peut très bien marcher. Mais nous, en Occident, on a des trucs un petit peu différents. On a voulu vraiment mettre, l'accent sur la différence de classe. Il y a la classe des élites et puis la classe du peuple. Et la classe des élites, elle veut se démarquer par l'habitat, habiter dans des châteaux, par l'habillement, mettre des habits teints avec des couleurs vives qu'on trouve pas dans nos régions, il y a qu'eux qui peuvent le porter, des habits qui montrent bien et qu'on ne travaille pas, la langue, on parle la langue de cour plutôt que les patois, etc. Et puis dans l'alimentation, ben on mange de la viande, parce que la viande c'est particulièrement valorisé, c'est un peu plus compliqué que le végétal.
D'ailleurs, vous vous posez la question de savoir à partir de quand on a mangé carné, en fait.
Toujours.
On a toujours mangé carné. Toujours mangé carné.
Oui, oui. Ouais. Oui, moi, je pense. Nos plus proches cousins, primates non humains, sont à des différences, enfin, à des taux différents, folivores, frugivores et insectivores. Voilà.
Alors, folivore?
Folivore, c'est on mange des feuilles.
D'accord.
Frugivore, on mange des fruits. Et insectivore, on mange des insectes et donc de la viande. Voilà.
D'accord.
Mais j'en reviens à notre histoire du Moyen-Âge où le végétal a été dévalorisé et à l'intérieur du végétal, toute la partie cultivée était bien, c'était quelque chose. Quand on mangeait des haricots verts qui ne viennent pas d'ici et qu'il faut cultiver, ça dénotait un statut supérieur. Mais si on mangeait de la soupe d'ortie, ça voulait dire aux yeux de tout le monde, moi je suis un moins que rien. Donc à partir de ce moment-là, les plantes sauvages, ça a été complètement laissé de côté parce que ça dénotait un statut inférieur.
Alors c'est magnifique l'ortie, il y a plein de protéines dedans.
Ah oui, il y a plein de protéines dedans, ouais. Il y a
ce que tout le monde ne sait pas, hein, finalement.
Non, ce que tout le monde ne sait
on
pas.
On n'imagine pas qu'il y a des protéines dans les orties.
Ça c'est. Alors, il n'est pas difficile d'avoir l'information sur le fait que tout contient un équilibre, entre glucides, protides, etc., choses comme ça. Bon, donc y compris dans les feuilles, il y a des protéines. D'accord. Ça, mais en quantité relativement faible par rapport aux produits animaux. Et surtout, ce qu'on disait, et ce qu'on a pu dire jusqu'aux années 80, c'est que ces protéines foliaires, elles étaient carencées en acides aminés essentiels. Ça veut dire qu'autrement dit, quand on mange des céréales et des légumineuses, la valeur, ce qu'on retire, la quantité de protéines qu'on en retire, est moindre qu'à poids égal pour de la viande. Okay.
Alors on va revenir là-dessus parce que ça c'est un point fondamental.
Ok. Hein,
parce que, et c'est une idée qui circule encore aujourd'hui sur la qualité des protéines, notamment végétales. François Couplan est notre invité. Je rappelle François Couplan que vous publiez L'art de la cueillette, les bienfaits nutritionnels des plantes sauvages aux éditions Les Liens qui libèrent. C'est passionnant et c'est passionnant de vous écouter.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, la rediff. Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
François Couplan est avec nous, ethnobotaniste. On parlait tout à l'heure justement de ces acides aminés que l'organisme ne sait pas fabriquer. Hein, les fameux les acides aminés dits essentiels. Ouais. Il y en a 8 ou 9.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Alors, et donc finalement, il faut les chercher dans l'alimentation.
Ah, on est obligé. On est obligé. Donc la doxa, comme on dit, propose qu'on aille les chercher dans les produits animaux. parce que effectivement, les protéines sont équilibrées en acides aminés essentiels. Bien sûr, c'est vrai. Et pendant longtemps, on pensait que les protéines végétales ne l'étaient pas. Mais dans les années 80, dans les années 70 d'ailleurs, il y a des travaux qui ont été faits par des gens de l'Institut agronomique qui travaillaient sur des protéines végétales issues de luzerne et d'autres plantes pour concurrencer le soja américain pour donner aux animaux. Et ils ont publié un excellent petit ouvrage qui montre que les protéines vivantes, donc liées aux parties chlorophylliennes des végétaux, sont équilibrées en acides aminés essentiels de la même façon que les produits animaux, qu'il n'y a pas de différence. Donc voilà.
Alors elles sont métabolisées de la même façon.
Ouais. C'est simplement.
Alors ça, c'est une information qui circule pas. Hein.
Non. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Moi, j'ai eu contact avec le professeur Coste en lui demandant est-ce qu'on peut extrapoler à vos résultats, parce qu'il en a fait pas mal, mais il n'a pas tout étudié, bien sûr. Est-ce qu'on peut extrapoler à toutes les plantes, y compris aux plantes sauvages? Il m'a dit oui, les résultats sont là et il le montre, il n'y a pas de problème. Après, qu'il y a des facteurs antinutritionnels dans les feuilles, on peut pas, il faut pas manger n'importe quoi, il faut pas faire n'importe quoi. Mais au niveau des protéines, on n'a pas de risque de carence si on consomme. Alors, évidemment, les nutritionnistes vous diront, ouais, mais la laitue iceberg et puis le blanc de poireau, il n'y a pas grand-chose. Et dans le ver de bête et dans les épinards, il y a des oxalates. Ben oui, ils ont raison, bien sûr. Mais c'est qu'ils voient les choses de façon un petit peu étroite. Moi, j'ai la chance de pouvoir les voir de façon beaucoup plus large et donc de dire, attendez, mais vous avez un panel d'aliments végétaux dans lequel vous pouvez puiser et puis, franchement, après, il n'y a pas de problème. Puis, de toute façon, entre nous soit dit, carence en protéines, c'est pas le plus gros problème qu'on a, nous, en Occident. Nous, notre problème, c'est la carence en micronutriments. Entre autres, la vitamine C. Vous voyez? Et c'est la vitamine
la
C.
La bonne nouvelle, la vitamine C, on les trouve dans les plantes sauvages.
Et la bonne nouvelle, c'est que ça permet de démontrer le principe de la vitamine C qu'on ne stocke pas. Le fait qu'on ne stocke pas la vitamine C montre que les plantes sauvages sont notre alimentation normal. Parce que ça fait quand même 61 millions d'années que l'organisme ne fabrique plus, donc celui de nos ancêtres, déjà, mais nous, on l'a hérité, ne fabrique plus de vitamine C, enfin, ne stocke plus de vitamine C, voilà, et qu'on est obligé de la fournir dans l'alimentation. C'est parce que c'était une économie pour l'organisme de ne pas en fabriquer, puisque de toute façon, il y en avait partout, dans tous les aliments qu'on consommait. Or, où est-ce qu'on trouve de la vitamine C? Dans les feuilles vertes et en particulier dans les feuilles de plantes sauvages, également dans les fruits d'ailleurs, mais on le sait pas, mais beaucoup dans les feuilles. Voilà. Et donc, pour moi, ça me permet de démontrer à peu de frais que notre alimentation normale, qui nous apporte ce dont on a besoin, ben voilà, c'est les plantes sauvages.
Alors, l'être humain est omnivore.
Ouais.
Ce qui veut dire qu'il mange de tout.
Ouais, à peu près, ouais.
Ouais. Alors, est-ce que vous arrivez à répondre à cette question? Quelle est l'alimentation la mieux adaptée à notre organisme?
Oui, alors, comprenez, notre problème à nous, c'est qu'on est des animaux culturels. Si vous dites la mieux adaptée à notre organisme, ça ne veut pas forcément dire...
De base, on va dire.
Bon, de base, c'est un équilibre. Alors, on va résumer, hein, en résumé, en prenant les différents nutriments. Un peu de glucides. On en a besoin, mais pas autant qu'on en consomme depuis les débuts de l'agriculture et qu'on continue à en consommer à l'heure actuelle.
Donc, et là, des glucides, il y en a dans les plantes vertes, hein. C'est ça qu'il faut comprendre aussi.
Ouais, mais il y en a peu.
Il y en a.
Les glucides.
Il y en a moins que dans le coca.
Ah, non, attention, quand je parle de glucides, je parle pas que de sucre. Je parle pas que de sucre qu'on sent sucré. Mais je parle de tout ce qui est amidon. Et notre grosse problématique à l'heure actuelle dans nos régimes alimentaires occidentaux, et pas que. Moi, j'ai un ami qui est en Afrique. Il mange beaucoup de pâtes, de foufou et de machins comme ça. Traditionnellement, il mangeait de la sauce avec. Alors, la sauce, elle apporte justement les protéines, elle apporte tous les micronutriments.
Et c'était de la sauce à base de plantes.
Pardon?
C'était de la sauce à base de plantes.
Absolument. Ouais. Mais maintenant, on veut plus. Maintenant, ce qu'on veut, c'est manger du riz à la sauce tomate chinoise. Ou au mieux, du foufou avec un petit peu de sauce cacahuète. Ils ont du diabète. Et ça nous pend au nez. Et enfin, ça nous pend au nez, ça existe beaucoup, on le sait. Et le problème, c'est ça, c'est cette sur-ingestion de glucides, de riz, de pâtes, de pain et de choses comme ça, par rapport aux autres éléments dont on a besoin. Si on veut de l'énergie, l'idéal, c'est les lipides.
Donc, désolé, les gras. Les gras, donc.
Oui, des gras, oui, des gras, du bon gras comme on dit, hein, mais des lipides, ouais, parce que ça fournit davantage, comment dire, d'énergie par rapport au poids, et c'est, comment je peux dire, et c'est un bon complément d'apport d'énergie aux glucides plutôt que de laisser les glucides tout apporter.
Alors, quelles sont les plantes où on trouve les lipides?
Oh, bah, les lipides, c'est les plantes oléagineuses, hein. Alors, dans nos plantes sauvages, il y en a pas tant que ça, quoi. Il y en a pas tant que ça. Ça sera surtout les noisettes, les fènes, les choses comme ça. Mais, si vous voulez, moi, mon approche à moi, c'est de complémenter une alimentation, qu'on peut dire normale, qu'on peut dire civilisée. Enfin, moi, c'est ce que je fais, par, tout l'immense profusion et la diversité de plantes sauvages qui existent pour se faire plaisir aux papilles, moi c'est ma première motivation, et puis apporter justement plutôt les micronutriments qui là nous font défaut dans une alimentation conventionnelle. Et ça c'est important, les micronutriments c'est quoi? C'est des vitamines, c'est des minéraux et des oligo-éléments, c'est sensiblement la même chose, et des antioxydants comme les flavonoïdes ou les anthocyanes. Et alors ça, les plantes sauvages, pouf, ça en regorge.
Alors qu'aujourd'hui les gens se supplémentent avec des compléments alimentaires, avec des oligo-éléments. Alors,
voilà. Le problème des compléments alimentaires, c'est que je cherche la façon dont je vais hiérarchiser ça, mais je trouve que déjà ça coûte cher. C'est quand même une chose, hein. D'autre part, ils sont souvent pas équilibrés, parce que on va prendre un oligo-élément en zinc, par exemple, du zinc, parce que on a une carence en zinc. Oui, mais attention, un excès de zinc, ça va poser d'autres problèmes, ça va poser d'autres carences. Donc, il faut prendre quelque chose qui soit bien équilibré. Et puis la source de production de ces oligo-éléments, elle n'est pas toujours absolument, comment je peux dire, irréprochable. Donc ça me paraît pas être un bon plan quand on peut faire autrement.
Et parmi les plantes antioxydantes que vous préconisez?
Alors là, les plantes antioxydantes, vous savez, c'est toutes les plantes vertes, toutes les feuilles. Tout ce qui contient de la vitamine C, tout ce qui contient de la vitamine E également, tout ce qui contient donc des tanins, tous les différents polyphénols, qui sont des molécules qui sont extrêmement répandues dans le règne végétal, sans en abuser, parce que comme toute chose, un excès de tanins, par exemple, ça va constiper, ça va bloquer l'assimilation de certains minéraux. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est simple, mais c'est un peu compliqué. Mais on s'y retrouve, hein, je veux dire, il suffit de lire mon livre, il est bien fait ce livre, hein, il explique tout.
Ça demande quand même un certain apprentissage.
Ouais.
Il y a un travail personnel à faire, hein, c'est, ouais, pas, voilà, c'est simple, c'est mais il y a un apprentissage
à
faire.
Et ouais. Mais de plus en plus, les gens, ils ont quand même envie de se prendre en main, quoi. Ça va, on a délégué pendant longtemps, on a envie de réfléchir un peu par nous-mêmes, on a envie de comprendre un petit peu. Enfin, en tout cas, moi je donne des stages donc depuis 50 ans, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes intéressées, et c'est vraiment le leitmotiv, quoi. J'ai envie de comprendre, j'ai envie de mieux me connaître, j'ai envie de comprendre le monde dans lequel je vis, j'ai envie de pouvoir agir de façon libre, sans subir les diktats de ma culture et de ma société, quoi, et des politiques, entre autres.
Vous dites que la cueillette, c'est tout un art de vivre, en fait.
Je crois. Parce que ça touche... Je dirais parce que ça touche à la relation, vous voyez, ça touche à la relation avec soi-même, mais ça touche à la relation aussi avec d'autres de nos contemporains, bien sûr, parce que quand on cueille, qu'on prépare un repas, on a envie de le partager avec d'autres personnes, donc on est dans la convivialité, on est dans le partage, c'est chouette, mais également, et ça me paraît très important, c'est que on développe une relation avec d'autres êtres vivants non humains. C'est très à la mode, on en parle beaucoup, du rapport, du respect envers les êtres vivants non humains, ok? Ça reste un petit peu dans les cercles philosophiques et de façon très conceptuelle. Moi, ce que je propose, c'est que on touche, on le sente, on l'observe avec ses yeux, on prenne le temps, on le goûte, le vivant non humain. Et la relation qu'on développe avec elle, elle prend totalement du sens, parce que, entre autres, mais à la base, elle nous permet, nous, de vivre, de nous nourrir. Un organisme, il a besoin de s'alimenter. Et vu que les plantes peuvent le faire, et qu'en même temps, on a une relation, ça devient une communion, quoi, quelque part. C'est sympa, enfin moi j'aime bien, c'est vraiment un art de vivre. Oui.
Alors vous expliquez dans votre livre que par exemple les ONG qui travaillent à soulager la faim dans le monde, en particulier en Afrique, s'intéressent depuis de nombreuses années à une plante, hein, le Moringa oleifera.
Oui.
Oui. Qui a énormément de propriétés finalement.
Oui, comme le pissenlit, l'ortie, la stellaire ou n'importe quelle autre plante. Pas plus, pas moins. Même peut-être moins, parce que elle contient des isothiocyanates, des substances qu'on trouve dans la moutarde, par exemple, et qui sont des facteurs antinutritionnels, vous voyez. Ça veut dire qu'on peut pas en manger de grandes quantités crues, par exemple. Il faut le faire sécher ou le faire cuire. Ok, très bien. Mais je veux dire, pourquoi le moringa? Pourquoi pas autre chose, quoi? Surtout que le moringa, on plante.
Alors, en Europe, oui, ça n'a aucun sens de manger du moringa,
voilà,
de toute façon.
Voilà. Ouais. Voilà. En Afrique, pareil, ça dépend où on est. En Afrique, quand on est dans le Sahel en été, je peux vous dire, on est content d'avoir du moringa s'il y en a. Ça, c'est clair. Mais dans d'autres régions, moi, je suis beaucoup au Togo, par exemple. Eh ben, Togo, c'est exubérant, hein, quand même. Des plantes, il y en a de tous les côtés. Hein. Et traditionnellement, ils en mangent, les gens. Simplement, maintenant, ils veulent plus en manger parce que nous, on n'en mange pas et que comment ils veulent faire comme nous, si je veux dire ça comme ça, de façon un peu simpliste. On mange plus la sauce feuille. Moi, quand je vais sur place, quand j'arrive, qu'est-ce qu'ils me proposent? Ils me proposent des spaghettis à la sauce tomate, quoi. Comme tous les bons yovo qui arrivent là-bas. Moi, je dis non, je veux la sauce feuille. Eh ben, ils vont chercher des feuilles, ceux qui connaissent encore, parce que tout le monde connaît plus, c'est ça le problème aussi, vous voyez. C'est que les savoirs se perdent tout de même.
Et il y a des feuilles de quoi, alors, dans la sauce feuille?
Il y a des feuilles de toutes sortes de choses. Moi, celle que j'aime beaucoup, c'est Vitex doniana. Vitex doniana, c'est un arbre. C'est un arbre, en plus! Vous imaginez, manger des arbres, c'est fabuleux. Nous, on a les feuilles de tilleul. Là, ici, à Paris, en ce moment, c'est plein de feuilles de tilleul, des petites feuilles, comme ça. Je passe, les branches sont à reporter, je broute, quoi, directement. C'est trop bon, comme ça. Non, mais c'est vrai, c'est agréable, ça me fait du bien, et puis, il y en a partout, quoi. Donc, c'est vrai que les feuilles d'arbres, ça peut être un bon plan. En Afrique, traditionnellement, ils faisaient ça.
Bon, l'art de changer les mentalités. En tout cas, ça passe par la lecture de votre livre. Ça s'appelle L'art de la cueillette, les bienfaits nutritionnels des plantes sauvages, pardon, aux éditions Les Liens qui Libèrent. Bon, c'est un plaisir, hein, François Coupland, de vous écouter. Vous êtes, on pourrait vous écouter des heures.
Ah, mais il n'y a pas de problème, moi je suis là.
Vous êtes à Paris pendant quelques jours, donc il faut profiter de vous.
Oui.
Vous pourrez écouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez cette émission sur la chaîne YouTube de beurrefm. Merci d'avoir été avec nous, François Coupland.
Grand plaisir.
Merci
grand plaisir
d'avoir partagé ce moment avec nous et passé une très belle journée. Santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm. Beurre FM, la rediff. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir chers amis auditeurs, quel plaisir de vous retrouver, vous le savez, c'est parti pour les informés quotidiennement, vous accompagne au sommaire de cette émission pour commenter, décrypter et analyser l'actualité, vous le savez, c'est parti, et bien nous allons vous concocter, et sûrement la jolie. Tout d'abord dans le 78, nous allons vous parler, vous savez, de ce fameux festival, la deuxième édition du festival Ciné Mantes qui revient pour une édition exceptionnelle. Nous en parlerons avec son organisateur, justement, qui sera avec nous, monsieur Mohamed Cheikh, qui sera en direct depuis Mantes-la-Jolie pour parler de ce festival. Ensuite, les débatteurs influenceurs s'empareront du micro pour commenter et confronter leur point de vue, puisque figurez-vous, nous allons reviendra sur trois sujets qui ont retenu notre attention. Alors, la conférence de Mélenchon sur la Palestine. L'université de Lille interdit l'événement. Ça mérite une clochette quand même. Parce que figurez-vous que, les mélenchonistes ne sont pas contents. Ils sont même en colère. Est-ce que Mélenchon, la question qu'on posera, dérange-t-il tant que cela? Puisque figurez-vous qu'il pose problème. Et puis durant cette campagne, faut croire que c'est la guerre, évidemment, de la bataille même d'ailleurs, tout simplement du terrain concernant les élections européennes. Opération Place Net XXL, plusieurs interpellations, mais partout en France. Est-ce que cela semble d'une efficacité sans précédent? Nous en parlerons, nous reviendrons sur ce sujet, puisque visiblement le ministre de l'Intérieur semble lui effectivement apporter un constat du terrain. L'Iran, nous allons en parler face à l'Iran. Benjamin Netanyahou, silencieux, et vous savez quoi, il réfléchit à la thèse de se dire qu'il peut y avoir une réplique israélienne. Sauf que s'il y a réplique israélienne, est-ce qu'on ne risque pas d'aggraver, justement, les choses en déclarant ouvertement une guerre Iran, Israël et sur toute la région du Moyen-Orient. La guerre en Ukraine, vous savez, il y a une déclaration. Il y en a un, je ne sais pas à quoi il joue. Il mérite une clochette quand même. C'est le président de la Russie. Alors je sais pas, quand je dis à quoi il joue, c'est que parfois il balance comme ça des, vous savez, des phrases déjà toutes faites. Il dit « la guerre nucléaire est inévitable ». En gros, 250 millions d'Européens vont mourir. Je balance ça comme ça, tiens. Paris détruit par ça avec ses missiles. À quoi il joue le président de la Russie là, il veut faire quoi? Il veut terroriser les Européens? Il veut faire peur? Il veut, ou alors il veut déclarer une guerre mondiale? Et tu t'attaques à l'Europe, tu provoques une guerre mondiale. Ah oui, c'est l'Europe, il y a les 250 millions qui sont terrifiés, ben c'est aussi la Russie qui est terrifiée. Certains vous diront œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Nous allons parler, vous savez quoi, du Code 9 avec le docteur Majid Siouxsin qui revient avec son billet d'humeur. Ça se passe à 19h50. Et puis quand vous êtes nombreux à nous écouter tous les jours, hein, tous les jours, je dois dire que ça fait plaisir. 01 53 48 3000, ça c'est votre numéro, il n'a pas changé. Vous nous appelez et Solal vous accueille avec grand plaisir au standard. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Les informés. L'interview.
L'interview, c'est avec Mohamed Cheikh. Bonjour Mohamed, comment ça va Mohamed Cheikh?
Salut, salut Adil, ça va, merci. Et toi, comment vas-tu?
Mais je vais très bien, quel plaisir que vous soyez avec nous dans Les Informés.
Vraiment plaisir.
Mais carrément, alors on va parler d'un festival, vous êtes à la tête d'un festival qui s'appelle le Festival Cinémante, qui revient pour sa deuxième édition, hein. Dites donc là, c'est le 20 et le 21 avril prochain, donc ça veut dire dans quelques jours. Alors parlons-en justement, ce festival qui commence à prendre un peu de l'ampleur. Alors l'objectif de ce festival, c'est précisément, il s'adresse à qui précisément?
Alors, on a fait un appel à candidature auprès d'un site dédié à tous les réalisateurs, tous les travailleurs du 7e art, tous ceux qui travaillent dans le 7e art. Et le thème principal, c'est le sport pour le clin d'œil des JO. Et effectivement, c'est la deuxième édition à l'espace Brel à Mont-la-Ville. Mmh. Et on s'adresse justement à tous les réalisateurs indépendants qui, voilà, il n'y a pas de frontières, hein. C'est vraiment, on a eu plein de candidats de tous les coins de la France. Et on est super ravis que ça prenne, parce qu'on a quand même des membres du jury prestigieux. Il y a Omar Diaw, un grand acteur.
Oui, qu'on a accueilli ici plusieurs fois, effectivement.
Et oui, il fera partie des membres du jury. Il y aura aussi Eric Troussel, c'est un directeur de production qui a produit pour M6, pour des grands, enfin je ne vais pas citer les noms, hein, mais des grandes enseignes aussi. Et Anaïs qui est réalisatrice également, influenceuse et elle développe également des événements autour du cinéma.
Bon, parlons-en justement. Cette deuxième édition, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des histoires qui tournent autour du sport. C'est ce que vous avez demandé, en tout cas, aux réalisateurs. C'est quoi? C'est des courts-métrages, des longs-métrages, essentiellement? Et est-ce que, quelle va être la programmation, précisément, durant ces deux jours?
Alors, effectivement, c'est un festival du court-métrage. Et donc ça sera le samedi 20, l'ouverture des portes pour le public, ça sera 14h.
À la salle Jacques Brel à Mantes-la-Ville, hein.
C'est ça, l'espace Brel de Mantes-la-Ville. Et 14h, ouverture des portes pour le public. Donc il y aura 14h30 une projection, la projection du film. En fait, c'est un film qui a été réalisé par des jeunes de notre association qui se nomme Sans que tu erres. Et il y aura plein de surprises, évidemment. Donc la présentation de ce court-métrage réalisé par Clément Lacroix et Raphaël Roquin, C'est des petits jeunes qui sont sous l'aile de Arish Galin, qui est un réalisateur et c'est un responsable du pôle audiovisuel de l'association Sanctuaire. Ouais. Et ensuite, il y a la projection. Il y a la projection également des membres de petits pépites de Mantes-la-Ville, hein, qui se nomment, c'est un collectif qui s'appelle La Pellicule, et qui eux-mêmes ont réalisé un petit court-métrage. Donc on les met en lumière aussi par le biais de ce festival. Et les candidats, parmi eux, il y aura un vainqueur. Et ce vainqueur-là sera systématiquement sélectionné pour le lendemain, donc le dimanche 21. Mmh. Et c'est là où on va dire la cour des grands, si je peux dire ça comme ça, avec un autre programme. Donc là, je passe à dimanche, là, je me permets.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, allez-y, c'est fait pour, hein, parce qu'on doit en parler justement de ce festival ciné.
Merci Adil, c'est top. Et donc 14h30, encore une fois, ouverture pour le public, ça sera à 14h. 14h30, 15h30, il y aura le masterclass. Donc, et session, interaction avec le public et les membres du jury qui sont justement des professionnels du monde dans le domaine du cinéma et qui répondront à toutes les questions de ces jeunes curieux, de ces jeunes réalisateurs lors de ce masterclass. Ensuite, on fait un petit entracte avec un petit dîner, un buffet dînatoire, pardon. Et. Sanctuaire, donc notre association qui va projeter le court-métrage produit par Sanctuaire et réalisé par Clément Lacroix et Raphaël Roca.
Ouais. Est-ce que ceux qui vont aller, évidemment, ceux qui se voient octroyer les prix, est-ce que ça va leur permettre de se professionnaliser davantage? Est-ce que ça va leur permettre de mettre le pied à l'étrier dans le monde du cinéma? Ça va leur permettre quoi, évidemment, avec ce tampon, si je peux me permettre cette expression, de ce festival cinémante?
Alors, tout festival, c'est un tremplin pour de jeunes réalisateurs, ceux qui sont pas forcément connus. Donc, ça fait office de carte de visite. Ils ajoutent une ligne dans leur cursus, dans leur CV. Et évidemment, ils gagnent en visibilité, ils gagnent en confiance, ils gagnent en estime de soi. Et ça rapporte, je pense, hein, pour leur développement personnel et professionnel, ça rapporte énormément.
Ouais. Est-ce que, à terme, le but, parce que là, vous en à la deuxième édition, le festival, votre festival Cinémante, c'est aussi de créer des ponts, des passerelles pour participer au grand festival international de Cannes.
Alors effectivement Cannes, on va dire que de chez nous à Mantes, pour beaucoup de jeunes réalisateurs, ça paraît inaccessible. Donc plutôt que d'attendre de faire la queue, si je peux dire ça comme ça, eh ben ils peuvent toujours exister et puis mûrir dans leur discipline.
Ouais, parce que ce qui est vrai, ce que vous avez dit tout à l'heure, mais on l'aura compris, c'est que il y a de véritables pépites dans le 78, notamment parmi les réalisateurs, les jeunes réalisateurs.
Hein. Oh, j'en découvre au fur et à mesure, il y a vraiment des talents, vraiment, des talents qui demandent qu'à être connus et reconnus.
Est-ce que dans ce vivier de talents, c'est aussi prometteur pour les années à venir, c'est-à-dire dans ce vivier, il va y avoir dans ce festival Cinémante-la-Ville, Cinémante en tout cas, de grands réalisateurs de demain?
Eh ben, je le souhaite de tout cœur, hein, vraiment. Je le souhaite de tout cœur parce que moi, la première chose que j'observe, c'est que à travers ces jeunes réalisateurs, ils ont les yeux qui pétillent et donc ils sont vraiment passionnés. Et c'est vraiment, ils le font d'une sincérité. C'est vraiment et ça me motive vraiment à continuer à faire exister ce festival qui fait office de tremplin, évidemment. Et bien sûr, notre association, elle développe, elle tisse une toile. On a contact avec par exemple Jean-Rachid Kalouche qui nous soutient et n'attend que qu'on le sollicite parce qu'il nous apporte aussi énormément de soutien et d'aide en quelconque, hein. En tout cas il s'est porté Il a répondu présent s'il y a besoin justement de continuer à faire évoluer les jeunes talents, d'une part, et notre association Sans Que Tu Erres, et le monde du 7e art, avec ses réalisateurs indépendants.
Ben merci Mohamed Cheikh, l'organisateur de cette deuxième édition du Festival Cinémante. Allez-y, franchement, c'est aller découvrir les pépites, aller découvrir les talents de demain aussi, mais aller découvrir et tout simplement soutenir les 16 courts-métrages qui ont été sélectionnés, qui seront diffusés tout au long de ce week-end, le 20 et le 21 avril. Donc ça veut dire ce week-end, à partir de 14h, à la salle Jacques Brel, à Mantes-la-Ville. Donc allez-y et évidemment allez voir... soutenez tout ça, Mohamed Cheikh, tout simplement.
Merci infiniment.
Et bon courage, bon vent pour cette deuxième édition.
Yeah, merci.
Bon vent. Et on est de tout corps avec vous. Bon courage en tout cas. Merci d'avoir été avec nous, mon cher Mohamed.
Merci de nous avoir invités. Merci Adil.
Avec grand plaisir, nous vous marque la première pause et on se retrouve tout de suite après, vous savez quoi, avec les débatteurs influenceurs. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, la rediff. La rediff. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Allez, c'est parti, vous le savez, le face-à-face, chers amis.
Les informés. Le face-à-face,
comme chaque soir, vous savez, c'est des voix que vous connaissez, tout simplement, que je vais présenter. Jonas Haddad, bonjour, qui représente les Républicains, mais il est conseiller régional en Normandie.
Bonjour, ça va, je suis vraiment ravi de vous retrouver.
Mais oui, ça va, vous savez qu'en Normandie, on déchire l'audience là-bas.
Ah mais je sais, Évreux, Rouen, Le Havre.
Hier, j'ai eu que des auditeurs d'Évreux hier.
On leur passe un grand salut.
Ouais. Vous avez du boulot, hein, du pain sur la planche, mon cher conseiller régional. Hein. Alors, il est banquier d'affaires, mais il est aussi élu sur la ville de Bondy.
Exact.
Il est très content d'ailleurs de s'impliquer. C'est toujours drôle de dire un banquier d'affaires qui s'implique localement dans une ville. C'est vrai.
Il y en a bien eu deux qui ont été présidents.
Qui
président de la République.
Ah oui, vous avez raison. Vous avez raison. En plus, ils ont un peu été dans la même école. c'est vrai. Je suis pas là pour dire les choses. Thierry Paul Valette, il est candidat aux élections européennes. Rappelez-nous de faire votre parti, mon cher Thierry Paul Valette.
L'Europe équitable, et c'est la liste de l'Union pour une Europe arc-en-ciel. Arc-en-ciel, ouais. En rapport à Nelson Mandela et la lutte contre l'apartheid et tout ce qui allait avec. C'est important de le rappeler, hein, face à la montée des populismes en Europe partout.
Et vous aviez tapé de près de tous les médias pour dire que nous aussi, on a le droit de citer justement pour les plateaux.
Bien sûr.
On vous néglige, les petits partis, on les néglige. Sur le Républicain, mais c'est vrai, on les néglige souvent. Hein. Il a tapé un coup de gueule et.
Vous savez que les grands partis aussi, on les néglige avec les nouvelles
règles. Arrêtez votre parti,
dans les médias, on les voit partout.
Jonas Haddad, s'il vous plaît, maître, vous êtes avocat.
Écoutez, moi, je ne sais pas pour faire plaisir à votre audience, mais je trouve qu'on voit beaucoup plus, par exemple, le RN et LFI que les Républicains.
Glucksmann et les autres, mais il faut savoir quand même
Glucksmann, c'est la coqueluche, le PS est ressuscité.
Justement, ne nous étalons pas, vous savez quoi, on va parler d'une conférence. La conférence qui a fâché tout le monde, les sympathisants, les politiciens, les mélenchonistes, les LFistes. Bref, vous savez quoi, c'est la guerre qui est déclarée. La conférence de Mélenchon sur la Palestine, l'université de Lille qui interdit l'événement. Et là, ça secoue les réseaux sociaux et ça secoue le monde politique. Parlons-en, qui veut prendre Thierry Paul Valette, allons-y.
Bon,
en plus, vous êtes en direct, je vois, sur vos réseaux sociaux.
Exactement. Moi, j'étais à l'université de Lille à l'invitation de l'ESPOL il y a une semaine, avec les représentants des partis politiques pour faire une conférence. Mmh. Et on est venu parler d'Europe et on a laissé de côté toutes les considérations, on n'a apporté aucun conflit. Seulement, la problématique, c'est que Lille, c'est une université. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les universités? Il y a la montée de l'antisémitisme. On le voit aux États-Unis et on le voit aussi en France.
Fait peur le leader de la France insoumise, Mélenchon?
Le problème, c'est que venir tenir une conférence dans une université auprès d'étudiants alors que on ne reconnaît pas le Hamas comme un groupe terroriste.
J'avais une représentante de LFI, justement une des porte-paroles, qui devait venir ce soir et elle a eu un approchement, c'est Sabrina Nouri. Donc là, effectivement,
bien sûr. Mais voilà. En tous les cas,
en parler.
C'était pas très malin, c'était pas très intelligent de venir à Lille avec des flyers, avec des petits logos par rapport à la Palestine, parce que c'est forcément mettre en opposition Israël de l'autre côté de la balance.
Mais c'est leur axe de campagne, voilà, vous le savez, voilà, ça. Mais, je vous l'apprends
mais,
pas,
mais non, mais justement, c'est ça qui est dramatique. Un axe de campagne au sein d'une université, alors qu'on ne reconnaît pas le Hamas comme un groupe terroriste, c'est scandaleux, c'est inadmissible. Et moi, je le comprends totalement. Les universités, justement, c'est ça la problématique aussi. Il y a une forte montée d'antisémitisme. Donc, on cherche à quoi exactement? Maintenant, à opposer les étudiants les uns contre les autres, comme l'a fait le président Emmanuel Macron ces 10 dernières années en opposant les citoyens.
Mais tout ça, est-ce que ça ne fait pas gagner justement?
Oui, la liberté d'expression.
Les Mélenchonistes, c'est ça que je me pose comme question.
Il n'y avait pas à importer le conflit israélo-palestinien.
En annulant la série des conférences, est-ce que ça ne fait pas monter les filles justement durant cette campagne? C'est aussi ça, hein, Jonas Haddad.
Moi, je vais le dire à la fois à mes contradicteurs et aussi à mes auditeurs.
Oui.
Il y a une donnée qui est factuelle. Dans notre pays.
D'autant plus que vous êtes avocat, vous, donc vous avez le droit.
Voilà. On a la plus grande communauté musulmane d'Europe et on a la plus grande communauté juive d'Europe.